Bonsoir. C'est avec un immense plaisir que je reçois, en tant que vice-président de la Société de philosophie de Bordeaux et en ouverture de la session 2022-2023, Pascal Chabot, philosophe bruxellois, dont l'œuvre est absolument passionnante. Et mon propos est de partir de son tout dernier ouvrage qui s'appelle « Avoir le temps, essai de chronosophie » et ensuite de faire un parcours de l'ensemble de son trajet de pensée philosophique depuis son livre en 2008 qui s'appelle « Après le progrès ». Voilà. Donc, le dernier livre de philosophie qu'a proposé Pascal Chabot en 2021 s'intitule « Avoir le temps, essai de chronosophie », c'est-à-dire une philosophie du temps, et plus exactement une philosophie des usages du temps. Comment vivre dans le temps ? Alors, ma première question est très simple. Dans la dernière page du livre, la quatrième de couverture, Pascal Chabot dit « Dans l'hypertemps contemporain, l'heure est partout, le temps nulle part. » Est-ce que tu pourrais, Pascal, expliciter cette phrase et le projet de ce livre ?
Tout d'abord, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Grand merci Francis pour ton accueil, pour l'idée de cette conférence. Et grand merci aussi à la librairie Mola pour son hospitalité vis-à-vis des lettres, vis-à-vis de la philosophie et de ses essais. Effectivement, ce livre est une méditation sur le paradoxe de la phrase que nous entendons souvent prononcer au cours des jours, au cours des semaines, « Je n'ai pas le temps ». J'ai voulu travailler là-dessus et décortiquant cette phrase, j'y ai vu effectivement le constat déplorant l'absence de quelque chose que pourtant nous avons. Parce que quand on dit « je n'ai pas le temps », on le dit dans le temps et on le dit en vivant. Et vivre, c'est avoir du temps, c'est fondamentalement cela. Donc, ne pas avoir le temps, c'est finalement se plaindre de manquer de quelque chose que l'on a. Et ce paradoxe est passionnant, comme tout ce qui concerne le temps. Du reste, la question du temps en philosophie me semble la plus belle des portes d'entrée vers les grands mystères de la condition humaine. Et quand Saint Augustin disait « Le temps, quand on ne me demande pas ce qu'il est, je le sais, quand on me le demande, je ne le sais plus », il définit, me semble-t-il, ce qu'est l'exercice philosophique qui toujours s'empare de ce que nous connaissons sans être capable de le définir. Telle l'amitié, telle la mort, telle l'amour. Les grandes questions, nous savons ce qu'elles sont, mais nous sommes souvent en peine de les nommer. Et c'est le cas pour le temps, avec alors le choix d'une stratégie, disons, pour essayer de penser ce rapport tout à fait particulier au temps que l'on a tout en manquant. Constatant d'abord que l'être du temps, c'est le disparaître. C'est une apparition disparaissante.
Le passage.
C'est le passage. C'est le passage et le passage vers l'irréversible. Toujours. Cette seconde qui va venir, elle est venue et elle n'est plus. Et le côté évidemment tragique du temps, c'est que c'est chaque fois, une seule fois et irréversiblement. Bon. Mais au-delà de cela, il m'est aussi apparu intéressant de me pencher sur le rapport de la quantité de temps que nous avons. Parce que on sait bien que la vie est brève, on le dit beaucoup, et le manque de temps est le grand sujet des philosophes ou des penseurs plutôt saturniens, que ce soit Verlaine, que ce soit Dürer, tous les grands mélancoliques déplorent qu'il y ait trop peu de temps, et dans les iconographies, on les voit avec la bougie qui se consume, le crâne, etc. Alors, j'ai voulu un peu éprouver cette question de la quantité de temps. C'était il y a un an, et méditant sur un petit sablier de ce qu'on utilise pour cuire les œufs à la coque, je me suis dit qu'il pouvait être intéressant de faire une sorte de règle de 3 et d'ajuster cette quantité de sable prévue pour 3 minutes à l'échelle de ce qui me restait de jours. C'était un moment où j'étais particulièrement optimiste, malgré que c'était en plein Covid. Je me suis dit, allons-y, une quarantaine d'années. Et la règle de 3 m'a fait aboutir à une somme de je crois, 41 tonnes de sable. Oh, si, voilà. C'est colossal. C'est colossal. Alors ça, c'est la quantité de temps que j'aurais. Mais réfléchissant, continuant à réfléchir, je me suis dit que j'étais en extériorité totale par rapport à cette quantité. C'est-à-dire que cette quantité, c'était juste une manière de chiffrer une représentation d'un temps compté, mais cela n'avait rien à voir avec le temps vécu. Et donc, tout l'essai du livre est sur base de cette quantité-là de... se réapproprier quelque chose comme un temps de qualité, comme une qualité du temps, c'est-à-dire comme un temps qui serait investi de ce qui peut nous importer. Ça, c'est la quête. C'est la quête parce que je crois que la réappropriation du temps, qui passe par la réflexion, réfléchir au temps, c'est déjà... changer notre manière non seulement de le percevoir, mais aussi de le vivre, de l'éprouver, de le prendre peut-être davantage au sérieux. C'est un des sujets qui peut permettre à la philosophie d'avoir un effet transformateur assez direct sur les existences. J'en suis persuadé, l'ayant moi-même éprouvé. Après avoir écrit ce livre, c'est vrai que je n'ai plus jamais considéré le temps de la même manière. Et au-delà de ça, il y a tout un effort pour essayer de comprendre la manière dont on ne peut pas s'arrêter à la détermination d'un temps physique, celui du sablier, et d'un temps plus psychologique, celui qui nous ferait investir le temps de telle ou telle manière et en y cherchant telle ou telle qualité d'existence, telle ou telle saveur d'exister. Mais il faut aussi comprendre que tout cela est déjà surdéterminé par ce que j'appelle des schèmes, c'est-à-dire des compréhensions culturelles du temps. Évidemment, nous ne vivons pas du tout dans la même temporalité qu'un ancien Égyptien, pour prendre un exemple assez lointain.
C'est parce qu'au fond, notre temps, le temps de chacun, est aussi un temps social, mais aussi un temps culturel qui s'inscrit dans des ensembles vastes, vastes à l'échelle de l'histoire et à l'échelle des cultures. Alors tu distingues ainsi plusieurs grandes représentations, conceptions du temps en fonction des cultures et en fonction de l'histoire. Est-ce que tu pourrais le préciser?
Oui, bien évidemment. Effectivement, en fonction de l'histoire, en fonction des périodes, différents temps sont dominants, en cherchant aussi à montrer que nous, au moment de l'histoire où nous sommes, c'est-à-dire à son extrême pointe, nous héritons de toutes ces temporalités que d'autres humains ont déjà connues, et nous vivons simultanément dans les temporalités diverses, ce qui donne le caractère sans doute très riche, fabuleux, angoissant aussi de l'époque. Parce que le temps qu'a connu la grande majorité des humains sur cette planète, c'est évidemment le temps du destin, voilà. C'est-à-dire le temps de la répétition, le temps cyclique, le temps qui s'impose absolument, le temps qui ne dépend en rien des humains, qui est celui de notre corps, qui est celui des cycles des jours et des nuits, des saisons, des végétaux, le temps par rapport auquel l'humain peut juste être patient. Juste être patient, c'est le temps qui véritablement s'impose et qui a été théologisé. Il y a sur la basilique d'Autun un Christ qui est chronocrator, le maître du temps. Et dans chaque théologie, évidemment, il y a un représentant divin, divinisé de la temporalité. Et ce temps du destin est toujours pour l'humain une sorte de d'immense leçon d'humilité. C'est par nature, ce qui ne dépend pas de nous. Et pendant très longtemps, il s'est agi pour l'humain de s'insérer à ce temps qui est toujours déjà donné, qui est celui du passé, donc qui est celui des origines répétées. Jusqu'à ce que, pour le dire ainsi, un temps lié au futur soit inventé, parce que c'est une construction, et on peut le placer sous le régime du progrès, avec cette idée que l'action humaine peut faire en sorte que demain diffère peu ou prou d'aujourd'hui et encore plus d'hier. C'est-à-dire que le temps du progrès est un temps qui sort de la cyclicité et qui, tablant sur des connaissances, tablant sur des techniques, tablant sur des institutions, va faire différer. Et entrant dans l'histoire, finalement, va faire différer l'évolution humaine, avec parfois quelque chose comme un immense optimisme, et surtout surtout l'optimisme moderne, disons, des 16e, 17e siècle, où il y a là la catégorie du futur.
Et des Lumières,
bien évidemment, où la catégorie du futur émerge. Pas oublier que la catégorie du futur est presque absente de la philosophie grecque, de la philosophie romaine. Ce ne sont pas des catégories plébiscitées, tandis qu'à 17e, 18e, bien évidemment, les lendemains deviennent importants. Et ces deux temporalités, la temporalité du destin et du progrès, qui évidemment continuent de cohabiter, parce que les humains du progrès du 18e sont fondamentalement des humains soumis à la biologie destinale et puis aussi à l'inertie finalement des systèmes. Mais enfin, quelque chose comme une concurrence entre ces deux temporalités voit le jour, que l'on pourrait appeler la querelle des anciens et des modernes finalement. C'est le soubassement temporel de cette querelle. Et tout est resté très longtemps ainsi, avec ces deux grands schèmes, jusqu'à ce que il y a une trentaine d'années, on voit, une trentaine d'années, c'est très nouveau, apparaître un autre régime temporel qu'il faut nommer et qui est un régime lié au numérique, lié à la civilisation que l'on connaît, lié à nos écrans. Je l'appelle ce régime le régime de l'hypertemps. Bon, néologisme pour dire que, effectivement, et j'en viens maintenant à commenter cette phrase, l'heure est absolument partout. Avec des machines qui sont d'abord des machines de synchronisation. Prenez un portable, je ne vais pas dire GSM parce que c'est un belgicisme, mais prenez un portable et allumez-le ou bien l'écran de votre ordinateur. C'est directement une manière de nous resituer dans le temps, un temps qui est extrêmement précis, un temps qui est donc omniprésent, qui est une sorte de réseau temporel au maillage très fin dans lequel nos existences s'insèrent, avec évidemment ce temps chiffré est accompagné d'une sorte d'injonction. La société de l'injonction temporelle, c'est clairement la nôtre, et dans l'hypertemps aussi, en plus de son omniprésence, en plus de des injonctions, je pense qu'il faut remarquer qu'on invente ou qu'on vit de plus en plus sous le régime du temps à rebours. Alors ça, je trouve ça tout à fait fantastique, mais vous utilisez un GPS et on vous indique le temps qu'il reste. Le temps qu'il reste pour arriver à destination, mais aussi le temps qu'il reste pour télécharger un fichier, et de plus en plus le temps qu'il reste quand vous regardez un film ou une série. Vous savez qu'il vous reste 8 minutes ou 4 minutes. Soit dit en passant, c'est d'une violence extrême vis-à-vis du réalisateur de ce film. Je pense que Chabrol n'aurait pas apprécié beaucoup que le téléspectateur sache qu'il ne reste que 12 minutes à tel film du Chapelier ou autre, parce que, évidemment, avec 12 minutes ou 2 minutes, on sait qui est le coupable. Bref, c'est un savoir du temps qui est un décompte du temps machinique, parce que le temps à rebours, c'est le temps des machines. Les machines n'ont pas de vécu du temps, évidemment, mais elles calculent le nombre de millisecondes ou de nanosecondes qu'il faudra pour faire telle ou telle opération. Bref, nous vivons dans cet hyper-temps où l'espace existe de moins en moins. Plus dans le continuum espace-temps, plus vous êtes dans le temps, moins vous êtes dans l'espace. Et la vie dans les bulles, tout de même, la vie assise devant un écran, derrière la vitre, est une vie très temporalisée, à distance, mais où quelque chose comme le sens de l'espace est en train de s'atrophier. Et au-delà de cela, au-delà de cette temporalité de l'hypertemps qui vient se surajouter aux deux précédentes dont j'ai parlé, il faut encore nommer cette temporalité de la chute de la biodiversité, cette temporalité liée au changement climatique.
Que tu appelles le délai.
Que j'appelle le délai. C'est le temps qui reste, mais le temps qui reste de façon angoissée, de façon peut-être tragique. Le temps qu'il reste avant qu'un changement majeur n'affecte, non pas l'espèce humaine, mais les conditions de vie sur Terre de l'espèce humaine. Et c'est une temporalité, elle, qui oblitère véritablement le futur et qui encapsule les humains dans un temps dont on se dit qu'il aurait une fin. Le seul analogue étant évidemment les mentalités religieuses plus ou moins apocalyptiques. Et il faut jamais oublier qu'il y a une charge de peur dans cette temporalité du délai dont héritent les générations de 20 ans de manière, je trouve, beaucoup trop violente, beaucoup trop chargée. C'est extrêmement difficile, quand on a 20 ans, de s'entendre dire « Vous êtes les tard venus. Vous êtes les tard venus. Vous venez après l'ère du progrès et le temps dont vous héritez est un temps dont... Le futur ne peut se conjuguer que comme un futur antérieur, finalement. Les choses auraient été bien si vos prédécesseurs avaient moins consommé. Bon, très, très difficile, mais c'est une question qui engage la responsabilité des intellectuels. Je crois que libérer le futur est quelque chose de tout à fait intéressant, tout à fait important dans cette... réflexion sur les différents schèmes temporels et la manière dont ils sont toujours solidaires. Je crois qu'au cours de la même journée, nous passons de l'un à l'autre. Nous passons du destin au progrès, à l'hypertemps, au délai. Et tout l'enjeu est de savoir quel schème temporel utiliser pour penser tel ou tel événement.
Mais en même temps, tu envisages aussi un autre temps que tu appelles l'occasion et qui est un temps davantage à soi, qui est un temps de liberté et qui permet de l'invention.
Oui, parce que si le temps est un milieu omniprésent dont on ne peut pas se défaire, il faut tout de même remarquer que nos existences se passent dans la tentative d'oublier le temps. Évidemment, nous ne vivons pas sans cesse angoissés par le temps qui passe, heureusement, et on peut même aller jusqu'à dire que ce que nous faisons d'important dans notre existence, c'est de mettre en œuvre une série de conditions temporelles pour créer des occasions où le temps peut être suspendu ou oublié. Quelqu'un aurait cuisiné toute l'après-midi pour... préparer pour ses amis un grand banquet, et activité hautement temporelle que de cuisiner, évidemment, séquençage très très fin, Évidemment, cette personne serait très, très, très malheureuse si quelqu'un à table regardait sa montre après 20 minutes. La convention est que le temps soit oublié et on s'est servi du temps pour l'oublier. Idem quand on prépare un film de cinéma, quand on écrit un livre, quand on est dans une conversation intéressante, quand on vit quelque chose de savoureux, on vit dans des occasions qui sont étrangères, je dirais, au cours ordinaire de l'existence, au cours linéaire de l'existence, occasions dans lesquelles on sait qu'on est capable de faire bifurquer les choses. On se saisit de nos vies différemment. C'est ça le kairos. Et c'est aussi un art, finalement, un art de faire de l'existence quelque chose qui n'est pas juste soumise au prolongement et à l'itération mécanique pour capter des transformations, pour capter avec un sens, véritablement, un esprit de finesse, comme Pascal le dirait, pour tenter de faire de l'existence quelque chose qui soit en dehors du temps. Et donc le but de s'éterniser tout de même un petit peu, créer un, Horace disait, un monument plus durable que l'airain, mais c'est tout de même ça, que dans nos existences, on essaye d'avoir des moments qui soient un peu plus durables que les moments ordinaires qui sont évanescents.
Alors Kairos, c'est ce petit dieu qui a une mèche, une longue mèche sur le front, qui chauve par derrière, qui, dans une main, qui a une corbeille remplie de choses qu'il va offrir aux passants, mais qui, de l'autre main, tient un rasoir et qui coupe. Et les personnes qui ne saisissent pas ce que Kairos donne sur le moment et qui veulent le rattraper ne peuvent pas le saisir par derrière, puisqu'il n'a plus de chevelure derrière, et même ils courent le risque d'avoir leurs mains tranchées. C'est ça le paradoxe de Kairos. Alors je voudrais ajouter une chose, c'est que il y a aussi une expérience, d'après ce que tu viens de dire, que l'on pourrait proposer, c'est celle de l'éternité selon Spinoza. Nous sentons et nous expérimentons que nous sommes éternels, dit Spinoza. Or, l'éternité, ce sont précisément ces moments qui nous font en quelque sorte sortir du temps, tout en demeurant, bien entendu, dans le temps. Et ce que nous en ressentons, c'est une immense joie. C'est la joie de ce présent qui, tout en sortant du temps et en étant dans le temps, finalement triomphe de la temporalité.
Oui, c'est effectivement quand Spinoza écrit sur l'éternité, hein, la citation que tu citais, Sentimus experimurque nos aeternos esse, c'est une manière de parler, je pense, de parler de la vie de l'esprit. De parler de la vie de l'esprit en ce que nous pouvons faire l'expérience que nos esprits ne vieillissent pas vraiment. On parlait de musique tout à l'heure, on pouvait parler de littérature, on peut parler de quelque chose qui est un sentiment de joie par rapport à la création artistique, ou de sentiment qu'on peut avoir dans la lecture ou par la lecture. Je trouve qu'il y a là des expériences qui sont des expériences extrêmement fortes, dans lesquelles on goûte une relation interne au monde de la pensée, au monde du langage, au monde de la signification, au monde du sens, par rapport à laquelle la question du vieillissement des esprits ne se pose pas ou se pose peu. Cette éternité-là, qui est une éternité dans le sensible, hein, bien évidemment, il faudrait pas en faire une transcendance, mais cette éternité-là est une éternité très très forte qui peut s'appeler saveur d'exister aussi. Il y a toute une constellation à chercher dans la saveur d'exister, dans cette manière de goûter des moments de qualité tout à fait impressionnants, ou de distinguer l'esprit en tant qu'il échappe, et c'est peut-être là la force de la création artistique ou de l'admiration artistique, il échappe à quelque chose qui est le passage du temps. finalement.
Et cette joie qui est un épanouissement aussi.
C'est ce que Spinoza a montré, effectivement, et elle est un épanouissement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un épanouissement? Elle est une transformation de soi. Oui, elle est une transformation de soi, c'est-à-dire qu'elle se cultive. C'est-à-dire qu'elle se cultive. Et le grand problème de l'hypertemps, puisqu'il faut en faire la critique, c'est la temporalité dans laquelle nous vivons, qui est une temporalité qui offre énormément, bien sûr, et mon propos n'est jamais un propos technophobe, mais enfin, c'est tout de même un propos qui cherche à réhabiliter ces moments-là, ces moments où on peut cultiver ce que l'esprit a de plus grand ou ce que l'amitié peut donner. Tous ces moments-là sont des moments inconcevables dans cette espèce de quadrillage parfois très coercitif de l'hypertemps, qui est un quadrillage que l'on voit bien sûr dans le monde du travail ou autre. C'est en s'échappant à cette temporalité-là, en retrouvant quelque chose qui est de l'ordre du kairos ou quelque chose aussi qui est de l'ordre de la contemplation du destin, parce que c'est aussi la contemplation de la nature, qu'on se connecte à une temporalité que je trouve plus profonde et donc plus libre, peut-être plus épanouissante aussi.
Alors, j'ai une toute dernière question sur ce livre. Tu as donné comme sous-titre, à avoir le temps, essai de chronosophie. Donc, c'est une chronosophie que tu proposes. Qu'est-ce que ça signifie exactement pour toi, au-delà, je dirais, des mots même, chronos et sophia?
Sagesse du temps, effectivement, pour dire que dans cette recherche, l'objectif que je me suis fixé n'était pas strictement intellectuel au sens d'intelligere, au sens de comprendre, mais que la compréhension était au service d'une sagesse, forcément d'une transformation de l'existence, parce que, et ça je pense que j'ai commencer à l'expliquer, parce que la manière de se rapporter au temps, la manière justement de faire exister le kairos, la manière de développer, d'être peut-être un peu plus accueillant par rapport à ces temps hors du temps, recelait véritablement une sagesse, c'est-à-dire un art d'habiter le monde. La philosophie, toujours entre compréhension et sagesse, passe avec le temps du côté vraiment performatif, et la sagesse est de cet ordre-là, d'un ordre véritablement performatif.
Alors justement, je voudrais maintenant venir à mon deuxième propos, c'est-à-dire revenir sur ton parcours de pensée, sur ton parcours de philosopher, qui me semble être toujours un effort pour penser le réel. Et c'est un acte proprement philosophique. Il me semble que tu es pleinement philosophe, et je dois dire que en lisant l'ensemble de tes ouvrages, je me suis régalé vraiment en lisant ce petit livre qui a un titre, je dirais, presque banal, Les sept stades de la philosophie, et que j'ai pris comme une sorte de traité aristotélicien dans lequel tu abordes justement ce qu'on pourrait appeler les différentes fonctions de la philosophie, ou plus exactement les différents projets de cet acte qu'est philosopher. Est-ce que tu pourrais y revenir?
Oui, évidemment. C'est un livre que j'ai écrit pour répondre à la question, pour tenter de répondre à la question souvent posée, que cherche-t-on en philosophie? Que cherche-t-on en philosophie? Et c'est une question dérangeante, profondément dérangeante, parce que c'est une question difficile. Et une série de réponses classiques ne m'ont pas suffisamment satisfait. Par exemple, on cherche en philosophie à construire des concepts. Bon, c'est vrai qu'on construit des concepts en philosophie, mais cela ne dit pas assez ce qui est au centre de la pratique philosophique. Ce qui m'intéresse dans la philosophie, c'est qu'elle est une théorie, une recherche théorique tout à fait particulière, qui la distingue de toutes les autres théories, en ce sens que c'est une théorie qui est profondément branchée sur la vie, qui est profondément nouée à l'existence. Et je vois la philosophie comme une sorte de jeu entre la vie et la théorie, c'est-à-dire le désir de théoriser sur ce que nous vivons, à partir de ce que nous vivons, ce qui change notre manière de vivre et ce qui peut être, comme théorie, transformé par de nouvelles expériences. Vous faites une théorie de l'amitié, par exemple, et bien cette théorie de l'amitié, vous la ferez à partir des amitiés que vous avez connues. Et cette théorie de l'amitié, évidemment, changera votre manière d'être amical et de nouvelles amitiés pourront à nouveau modifier cette théorie. Donc il y a quelque chose comme un va-et-vient constant dans la philosophie en train de se faire, dans la philosophie vivante, donc, qui la distingue totalement d'autres théories qui seraient alors, je dirais, plus figées, parfois même plus notariales en tant qu'elles feraient le cadastre de ce qui existe. Aucun philosophe ne peut dire « je fais le cadastre de ce qui existe » parce que tout ce qui est écrit sera modifié ou peut être modifié par de nouvelles expériences. Il y a un caractère non finito, vraiment non fini de la philosophie qui la rend vivante et qui la rend évidemment à jamais intotalisable. Alors au centre de ce jeu entre la vie et la théorie, j'ai essayé de donner de la place à un certain nombre de désirs proprement philosophiques. Ce sont eux que j'appelle les sept stades de la philosophie. Bon, le titre est ce qu'il est. Ce n'est pas toujours facile de trouver les bons titres. Mais ces désirs, qui sont des désirs philosophiques, sont le désir, par exemple, de mettre en lumière, élucider. C'est le premier des désirs. Je suis frappé, et ça, c'est dans une autre vie. J'ai travaillé dans une compagnie de danse contemporaine pendant 5 ans, liée au Théâtre National à Bruxelles, et j'étais toujours fasciné par la mise en lumière du spectacle et par le fait que ce sont les éclairagistes qui décident d'éclairer de telle manière telle corde danseuse, tel autre corde danseur, etc. Les éclairagistes, finalement, font sortir du noir, qui est l'obscurité première et qui est la réalité fondamentale, font sortir de l'obscurité quelque chose qu'ils veulent distinguer. Et de même, en philosophie, l'art d'élucider, l'art de mettre en lumière, qui est peut-être l'art premier, par le langage et par le seul langage, parce que la fragilité, la grandeur des philosophes, c'est évidemment qu'ils n'ont qu'un seul outil, ce sont les mots, mais qui peuvent fonctionner comme un rayon X, qui est une autre forme d'élucidation, encore peut-être plus intrusive dans le réel, eh bien, c'est clairement le désir premier. Alors, j'en ai distingué une série d'autres qui sont...
Le dernier, c'est réjouir.
C'est réjouir, bien évidemment. Oui, c'est réjouir, bien évidemment, qui est la quête par excellence, à nouveau, de façon très spinoziste, une quête de joie, parce que si la philosophie n'amenait que à une lucidité malheureuse, qu'à une tristesse infinie, comme c'est Freud qui disait, je crois que j'ai... J'ai transformé l'hystérie en tristesse infinie. Bon, je pense que ce n'est pas un but que l'on doit rechercher. Il y a quelque chose dans l'activité de la pensée de profondément réjouissant, et sinon dans l'activité de la pensée, du moins dans le contact de la pensée d'autrui. Il y a un long exercice d'admiration dans l'histoire de la philosophie, et c'est peut-être pour ça que nous sommes toujours contemporains de cette histoire, comme les artistes, finalement, sont contemporains de leur histoire.
Et c'est aussi la raison pour laquelle les philosophies ne sont jamais obsolètes.
Effectivement, Platon peut encore parler. Et aucune philosophie ne peut revendiquer faire un progrès définitif vis-à-vis de l'autre qui enterrerait la précédente. Comme dans notre existence, finalement, où on ne peut pas dire que quand nous avons eu 32 ans, nous avons balayé tout ce qui précédait. Non, il y a là quelque chose comme une chaîne qui est une chaîne de pensée qui se reprennent, parce que finalement, les questions sont toujours les mêmes, sauf qu'elle se pose dans des contextes tout à fait différents qui les modifient. De là, la nécessité du néologisme, parfois, de là des hypertemps, des ultra-forces qui sont ce que nous vivons. Mais il y a une quête qui continue à se métamorphoser à travers l'histoire.
Et tu es profondément philosophe, donc.
Alors même c'est gentil de le dire, non, je ne sais pas.
Pense, je le pense vraiment. Et je voudrais en venir maintenant au livre par lequel j'ai découvert ton œuvre, en lisant d'ailleurs un livre en 2013 de Christophe Bouton, qui sera un des invités de cette saison 2022-2023 de notre Société de philosophie. Ce livre s'appelait « Le temps de l'urgence », et c'est là qu'il citait ce Global Burnout. Et ce Global Burnout est un livre extraordinaire. C'est un livre extrêmement marquant sur un phénomène qui, en 2013, n'occupait pas le devant de la scène médiatique et qui, aujourd'hui, est devenu beaucoup plus prégnant pour nous. Alors, quel regard tu portes aujourd'hui sur ce Global Burnout ?
C'est un livre qui m'a formé très clairement. Je suis allé vers ce thème et ayant entendu l'un ou l'autre cas relativement proche prononcer ce terme de burn-out, ne sachant pas bien de quoi il s'agissait. Donc j'y suis allé pour essayer de comprendre et de comprendre le lien entre ces épuisements professionnels qui affectaient des personnes qui pouvaient être les plus valeureuses, qui donnaient le plus à leur travail, qui étaient tout le contraire de tir au flanc, et qui, à un moment, se voyaient incapables d'encore continuer, soit prises dans des logiques de système qui étaient des logiques écrasantes, soit prises dans des conflits de loyauté entre un idéal du moins perfectionniste et un idéal de la structure rentable ou compétitif, soit bousculés dans leur demande de reconnaissance par des structures qui peuvent parfois se jouer de la méconnaissance. Donc je suis intéressé à tous ces mécanismes qui font à la fois la grandeur du travail et sa souffrance. Évidemment, le travail est central dans nos existences. Il est peut-être plus central que jamais. Il est transformé. Et il est le lieu d'un épuisement qui se produit aussi à l'heure où nous humains épuisons la planète. Donc il fallait, c'est pour ça que l'approche philosophique était me semble-t-il importante. Il fallait sortir simplement de la catégorisation psychologique, tout en évidemment travaillant avec les psychologues et travaillant avec les médecins pour parler d'une civilisation. Pour parler d'une civilisation qui est une civilisation capable d'épuiser d'épuiser la biodiversité comme d'épuiser des ressources humaines, voyant là alors un combat, un double combat, un combat pour une réforme du monde du travail. Et je dis parfois j'ai fait du ski nautique derrière ce livre, c'est-à-dire que j'ai été partout où il m'emmenait. Partout, dès qu'une structure me disait « Tiens, mais est-ce que vous voulez pas venir parler du burn-out ?» Je venais parler du burn-out et je le faisais devant de très grandes entreprises comme des tout petits collectifs de travail et je tenais toujours le même discours. Et je voyais évidemment souvent au premier rang toute une série de personnes qui étaient là, les bras croisés en se demandant qu'est-ce que ce syndicalisme d'un genre nouveau, philosophant ou quoi. Et j'étais pas là pour avoir un discours, je dirais, syndical, mais j'étais là pour avoir un discours sur le rapport de l'humain qui veut bien faire son travail et d'un système dans lequel faire son travail n'est pas une chose aisée du tout. Donc c'est cette contradiction-là, douloureuse, terriblement douloureuse, au sein du travail, que j'ai voulu dépeindre, finalement.
Par rapport à ce que tu appelles les ultra-forces.
Par rapport à ce que j'appelle les ultra-forces, alors la notion d'ultra-force, elle est venue un peu par la suite dans un livre qui s'appelle « Exister, résister », et qui est une sorte de théorisation un peu méta de notre existence, ou effectivement, je me demande ce qu'est cet humain qui travaille, ce qu'est cet humain dans le système. Je me dis, ben d'abord, c'est un moi qui habite le système, le moi systémique. Et le système, je ne suis pas du tout de ceux qui le dépeignent idéologiquement comme le cadre aliénant de nos existences. J'essaye de façon beaucoup plus matérialiste, je pense que je suis assez matérialiste, de voir qu'il est déterminé par trois réalités que sont le verre, la vitre, l'écran, et la chaise, le siège. Ce sont vraiment les trois marqueurs du système, et être dans le système, c'est être du côté de la vitre où règne la régulation atmosphérique, assis devant un écran, de plus en plus. Remarquez que même les voitures sont des petits bouts de système, des bouts mobiles de système. Et donc ça, c'est le moi systémique, avec des vertus du système, qui sont les vertus, finalement, d'organiser une certaine transparence, d'offrir aux individus une place, d'offrir des informations aussi. Et puis, il s'est agi dans le livre de nommer ce qui était en train de traverser ces systèmes en les déstabilisant. Et c'est là que la notion d'ultra-force m'est venue pour nommer des forces d'un genre tout à fait nouveau qui déstabilisent profondément les existences. Quand je dis des forces d'un genre nouveau, c'est que existent de plus en plus sur cette planète, liées évidemment à des multinationales, liées à des très grands conglomérats, des forces qui sont à la fois psychiques, à la fois sociales, à la fois techniques, à la fois financières. Prenez Google, par exemple. C'est colossal, colossal comme force numérique, bien sûr, mais aussi sociale, mais avec des investissements dans le transhumanisme, mais économique, une des premières capitalisations boursières de la planète. On peut en prendre tellement qui sont des forces avec lesquelles, et c'est ça tout le tragique de la situation d'un point de vue politique cette fois-ci, nous ne pouvons pas entamer de rapport de force. Dès qu'il y a une force, le réflexe humain est de chercher le rapport de force, évidemment. Et là, on est dans l'anti-rapport. C'est-à-dire qu'on est dans une civilisation technologique qui est en train de créer, de recréer un nouveau destin, qui n'est plus naturel celui-là, mais qui est technologique. Alors, quand c'est fait dans un contexte démocratique, mais évidemment avec de grands guillemets, puisqu'on ne peut pas parler de démocratie et d'anti-rapport, mais je dirais quand c'est fait dans les démocraties libérales occidentales, on voit que ces forces, ces ultra-forces ne sont pas des ultra-forces uniquement aliénantes du tout. Je suis dans une pensée qui essaye de nommer la perplexité et qui évite tout manichéisme facile. Certainement, je vais pas dire du tout que Google, dont je me sers tous les jours, serait le mal absolu ou quoi. C'est très très, je suis très 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 loin de le penser. Je pense que ce que nous offre cette civilisation numérique est à bien des égards fascinant et un progrès par rapport à toute une série d'autres dispositifs. Mais enfin, dès que ces ultra-forces sont aussi liées à des pouvoirs qui peuvent être aliénant ou devenir aliénant ou devenir totalitaire, la puissance humaine, la puissance de l'individu n'existe plus. Elle est absolument broyée. Donc nommer les ultra-forces et essayer de résister, justement, c'est ça le titre, exister, résister, en voyant bien la délégation de puissance colossale et le, grâce au numérique, le changement d'ordre, le changement d'échelle que nous connaissons, a été un des buts de ce livre, en disant qu'il y a donc une instance de nous-mêmes qui est ce moi systémique, une autre instance qui est le jeu clivé par les ultra-forces. Clivé, c'est vraiment ça. C'est scindé en deux entre une partie qui l'utilise un peu benoîtement et une autre partie qui n'est pas dupe du tout quant aux déprédations environnementales ou l'injustice sociale que ces ultra-forces peuvent générer. Et puis un troisième instance, évidemment, de ce sujet, qui est le soi, dont il faut toujours parler. Et le soi, j'essaye de le caractériser comme ce qui nous importe. Le soi, c'est pas une substance dans l'individu, bien évidemment. Pour dire ce qu'est le soi, on peut peut-être dire le soi, c'est ce qu'on aime dans l'autre que l'on aime. D'habitude, quand on aime quelqu'un, on n'aime pas le moi systémique dans cet individu. On n'aime pas non plus, sauf si on est très torturé, l'autre en tant que je clivé en permanence par des ultra-forces. Par contre, cette dimension du soi, ce rapport à la saveur d'exister, ce rapport à ce qui importe, quelque chose comme un style aussi, c'est une voie dans les individus. Et c'est évidemment là que l'existence, la résistance s'enracine.
D'où le sous-titre « Ce qui dépend de nous ».
Et oui, ce qui dépend de nous, la grande phrase stoïcienne, la grande phrase du manuel d'Épictète. Épictète dit, si vous voulez être heureux, faites la différence entre ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous. Et la réponse d'Épictète est intéressante et inactuelle, parce qu'il dit, finalement, ce qui dépend de vous, ce sont vos mots, vos perceptions, vos désirs, vos jugements. Cela, c'est votre précaré. Et le reste, les humeurs des politiques, les ouragans, l'histoire, tout cela ne dépend pas de vous, donc ne vous en souciez pas.
Soustinez, abstinez.
Voilà, supporte et abstiens-toi, qui deviendra la grande maxime des jésuites. Et il va jusqu'à dire que si un sage est sur un bateau en Méditerranée, dont on sait que les courants sont trompeurs, et que le bateau vient à sombrer, eh bien tout ce qu'il devra faire, c'est remercier une dernière fois Zeus d'avoir vécu, et s'abîmer dans les flots sans râler. C'est le destin, c'est la figure du destin stoïcien, qui est devenue la providence chrétienne. Mais nous détestons ce destin. Nous détestons véritablement ce destin. Toute la modernité est un effort pour rapatrier dans la sphère de ce qui dépend de nous, ce qui, pour les stoïciens anciens, n'en dépendait pas. Parce que les stoïciens anciens, c'est un peu comme Voltaire, c'est cultiver votre jardin à la fin du Candide. Mais nous nous préoccupons même de notre relation avec le climat. On en est là. C'est, pour un stoïcien, ça aurait été complètement aberrant qu'un petit individu se dise « Tiens, mais mes choix au supermarché peuvent peut-être impacter d'une manière ou d'une autre. » Ce verbe « impacter » est un néologisme qui finalement démultiplie la croyance de l'humain en la puissance de son action, puisse impacter le climat. C'est vertigineux pour un stoïcien. Enfin, ça n'existe pas pour un stoïcien ancien. Mais nous en sommes là. Parce que nous sommes sortis du destin. Je pense que nous sommes en train de refaire un nouveau destin technologique. Mais nous pensons que de plus en plus de choses dépendent de nous. Alors, lesquelles? C'est toute la question.
Alors, le livre suivant, qui est une suite, en définitive. Alors, celui-là, je l'appelle ton livre... cartésien, ton discours de la méthode, s'intitule « Traité des libres qualités ». Et tu réfléchis sur le qualitatif avec ce qu'il a à la fois de fabriqué et quasiment de faux, et avec alors ces qualités libres qui sont pour toi les qualités vraies. Est-ce que tu pourrais nous préciser, nous expliquer cela?
Oui, bien évidemment. C'est une méditation sur l'omniprésence de la qualité. On parlait du travail, la qualité du travail, dans une entreprise, la qualité du management, la qualité du pouvoir, la qualité de l'eau que l'on boit, la qualité
du... Tout est mesuré, en définitive.
Tout est mesuré. Et notre monde, notre civilisation technique est véritablement... normé par une série de dispositifs de qualité, de régulations qualitatives, dont nous sommes finalement les grands bénéficiaires. nous sommes, enfin, personnellement, je suis heureux de voir quand je prends un ascenseur un petit label ISO en disant que au niveau qualité tout a été contrôlé. Quand on prend le train, plus encore, quand on boit de l'eau du robinet, etc., toute la chaîne alimentaire est entièrement normée par une sorte de soft law, un droit qui ne dit pas son nom, qui est peu démocratique, qui est technique, mais qui finalement régule notre rapport au monde. Soit dit en passant, parce que notre rapport au monde s'éloigne à la fois des qualités premières et des qualités secondes de Descartes. Les qualités premières qui sont les qualités mesurables et dans la nature, et les qualités secondes qui sont les qualités senties, parce que nous vivons de plus en plus dans des qualités artificielles. Nous parlons beaucoup de la nature, mais nous la vivons de moins en moins. Nous vivons toujours davantage loin de la nature. Nous ne touchons plus guère de la terre à pleine main, on ne met a fortiori plus trop un pied dans de l'eau courante d'une rivière ou quoi. On voit la Garonne tout à l'heure, mais on la voit finalement d'assez loin. On a plus, de moins en moins, ce rapport sensible à la nature, ce rapport inséré dans la nature. Ce qui est le paradoxe de notre époque, où on parle de la nature tout le temps, en jouissant pendant les vacances ou certains dimanches, mais beaucoup beaucoup moins qu'auparavant. C'est intéressant de se dire ça, me semble-t-il. Et donc j'ai voulu parler de la civilisation des qualités contrôlées, en ce qu'elle pouvait devenir aberrante, parce que finalement le désir de contrôler toujours la qualité va de pair avec une artificialisation du monde qui finalement nous coupe du côté naturel et qualitatif que peut avoir l'existence. Dans le livre, je parle de cette dame qui, en maison de repos, dans une EHPAD, demandait, elle sentait que pour le coup, le délai était proche. Elle demandait un dernier œuf à la coque, le goût d'un œuf à la coque. Et c'est un chef cuisinier qui avait raconté cela dans le journal Libération. Je l'avais retrouvé dans le journal Libération, et que la direction de l'EHPAD avait alors dû convoquer son comité qualité pour voir si on pouvait introduire un œuf cru dans les pâtes pour qu'il soit cuisiné, et que le verdict avait été implacable. Non, une série de bactéries pourrait l'accompagner. Tout ce qu'on peut lui donner, ce sont des œufs en tétrapack. Et elle avait été alors tragiquement privée de ce qui est le plus simple, et aussi de ce qui était devenu le plus complexe, c'est cet œuf-là. Bon. Cette histoire en dit long sur la transformation d'un monde par la régulation de certaines qualités contrôlées, contre lesquelles il faut chaque fois chercher à jouer quelque chose qui est de l'ordre de la qualité libre, sans les opposer de façon totalement manichéenne.
Alors, est-ce que tu pourrais expliquer ce que tu appelles qualité libre, justement ?
Les qualités libres, c'est ce que l'on déploie souvent implicitement en travaillant pour aller vers quelque chose que l'on distingue comme étant le cœur de son métier, en n'étant pas toujours capable de l'expliquer. L'enseignant, par exemple, ou le médecin, je me suis beaucoup intéressé à la fois au monde de l'enseignement, étant enseignant, et au monde de la médecine, et toujours pour essayer de comprendre cette grande phrase de Freud. Hein. Freud dit à un moment, avec la modernité, trois métiers sont devenus impossibles: soigner, éduquer, gouverner. C'est abyssal comme réflexion, mais c'est là qu'il faut penser. Ce qui m'a semblé important, c'est que l'enseignant sait souvent si son cours a été correct ou si son cours n'a pas été correct. Il sait si cela a marché, presque comme un acteur de théâtre. Il y a quelque chose comme un je ne sais quoi, qui est au centre du métier et qui est au centre de tous les métiers. Ce peut être pour un rendez-vous commercial, ça peut être pour un coup de téléphone, ce peut être évidemment pour le médecin qui a pu bien expliquer avec un tel patient comment à tel patient comment se débrouiller avec la maladie ou quoi. Quelque chose est passé et c'est un je ne sais quoi qui nous renseigne là. Et ce je ne sais quoi est l'autre nom de la qualité. En tant que je pense que la qualité a toujours quelque chose d'indéfinissable. Elle est au-delà des mots. Or, dans le monde de l'enseignement, de plus en plus souvent, on voit ces qualités que j'appelle les qualités libres. C'est-à-dire qu'elles sont librement constituées par quelqu'un qui est expert en son domaine et qui, d'une certaine façon, est le seul à savoir véritablement, face à telle classe, comment s'y prendre pour faire passer telle ou telle idée sur le discours de la méthode ou telle idée de géographie. Parce qu'il y a quelque chose d'intime dans la relation pédagogique, de même que dans la relation thérapeutique. Et on voit de plus en plus ces qualités libres, dont j'ai donné un exemple, être d'une certaine façon formatées, a priori, avec... une sorte de cadre qui dirait, mais voilà, pour tous les enseignants, voilà les passages obligés pour enseigner, mettons, le discours de la méthode.
Le carcan des normes.
Le carcan des normes qui s'applique en leur enlevant du sens et en leur enlevant à nouveau de la saveur, parce qu'en leur enlevant le je ne sais quoi qui fait le sens de ce travail. Qui fait le sens de ce travail et qui alors pousse toute une série d'individus en disant mais voilà j'ai une méthodologie à suivre, bon ça peut marcher mais dans bien des cas ça ne marche pas ou c'est pas aussi bon, c'est pas aussi qualitatif et j'insiste sur le côté je ne sais quoi. Sur le je ne sais quoi qui fait la grandeur de la vie humaine. Tout ce qui est important ne s'apprend pas. Et tout ce qui est véritablement important ne s'imite pas.
Nous avons affaire à la singularité.
Tout à fait. Et la qualité est toujours de l'ordre de la singularité. Alors, c'est ça, je ne veux pas penser de façon tout à fait manichéenne en disant que toutes les propédeutiques sont toujours à jeter à la poubelle. Loin de là, il peut y avoir un cadre qui est intéressant. Mais dans le cadre, il ne faut pas oublier que l'essentiel est de l'ordre de la relation. Et la qualité est toujours quelque chose qui est de l'ordre de la relation.
Et donc de la relation à de l'altérité.
De la relation à de l'altérité et de la relation à la surprise. De la relation avec la surprise, de la capacité finalement de s'adapter, d'être créatif dans le moment. C'est ce que l'on fait amicalement, c'est ce que l'on fait évidemment quand on est avec les gens qu'on aime. Et je pense que professionnellement aussi. Et je repique sur le livre lié au burn-out. J'ai vu tellement de médecins, notamment, parce qu'après, lié à ce livre, on a filmé la PHP, Hôpitaux de Paris. Alors, on a filmé dans le bloc opératoire avec Jérôme Lemaire, qui est un fantastique cinéaste qui a finalement été chercher ce qui faisait la grandeur du travail des médecins. Et très souvent, on a vu quelque chose comme un conflit entre la manière dont les médecins vivaient leur propre travail et une série de normes extrinsèques, abstraites, qui se surimposaient et qui créaient quelque chose comme un conflit de loyauté entre est-ce que je dois faire les choses de la manière qui me semble la meilleure ou est-ce que je dois faire les choses de la manière que l'on me dicte.
Alors, avant de terminer, je voudrais te poser une dernière question à propos du départ de ta réflexion philosophique, qui est ce premier livre que tu as publié tout seul, qui s'appelle « La philosophie de Simondon ». Qu'est-ce que tu dois à l'exemple de Simondon ?
Alors, c'est vrai qu'on est toujours marqué à jamais par sa thèse de doctorat. Je crois que c'est là que l'on apprend des procédés de pensée. Des manières de se débrouiller dans la pensée. Et très certainement, Simondon m'en a appris. que ce soit la manière de louer, de lier l'individuation, donc le devenir personnel et social et la technologie. C'est quelque chose qui vient de Simondon et tout mon parcours est un parcours, c'est pour ça que je pense que c'est relativement actuel pour toujours penser ce que fait la technologie aux individus, ce que les individus, comment les individus se débrouillent dans un monde de plus en plus technologique. Je lui dois aussi très certainement et à Gilbert Autois aussi, qui a été mon professeur à l'Université libre de Bruxelles, une sorte de désir de clarté dans le langage. Ça me semble important.
Qui est toujours très clair.
J'essaye de l'être. Je me dis que tant qu'à être communicable, c'est mieux. Et puis, à partir de Simondon, et c'est vrai que c'est un peu de là où je viens, c'est d'une réflexion sur le progrès, avec la distinction entre deux types de progrès. Un progrès utile, qui est le progrès des technologies, qui est le progrès triomphal, très certainement. Il est triomphal parce que c'est un progrès qui va vers l'avant, progrès adoré, c'est ça, sans devoir toujours réinventer, sans devoir revenir. On est à l'iPhone 12 ou 13 ou 14 sans doute, et bientôt iPhone 15, iPhone 16, etc. Il y a là un capital, faut dire, d'innovation de plus en plus important, de procédés, de compétences, sur lequel, à la manière d'intérêt qui serait généré, l'innovation table pour aller toujours plus loin. Et quand on parle d'une accélération du développement technologique, il faut en prendre la mesure. C'est vrai, parce que ce capital de compétences, d'innovation et de savoir et d'individus qui y travaillent est toujours plus important. Ce progrès est le progrès triomphal, absolument dominant. Mais il n'est pas le seul. Et toute ma réflexion, je pense, en tout cas aujourd'hui je dirais cela, est une tentative de faire droit à un autre progrès que j'appelle le progrès subtil. Parce que, hors de la sphère technico-économique, nous progressons aussi, évidemment. Il y a un progrès dans l'art d'être sincère, il y a un progrès dans l'art d'être courageux, il y a un progrès même dans l'art d'avoir de l'humour. On pourrait dire qu'on en a peut-être un peu plus d'humour une année sur l'autre. Bon, mais ces progrès-là sont évidemment pas des progrès où l'on va, comme dirait Rabelais, jusque S signe céleste. C'est des progrès qui sont cycliques, qui ont quelque chose d'initiatique. Il faut toujours recommencer. On recommence à être sincère. On peut pas dire j'hérite de, je sais pas, de la sincérité de quelqu'un d'autre, quoi. Mais non, on réapprend. Chacun réapprend à être humain et progresse cependant. Et ce progrès subtil, qui est véritablement le progrès humain, doit être recentralisé. Et il est important de bien comprendre que le progrès utile, qui concerne l'environnement matériel, est au service de ce progrès humain. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. À nouveau, sans jouer l'un contre l'autre, mais les enserrant l'un et l'autre dans une dynamique plus large, où ce qui est subtil, subtella, c'est ce qui est en dessous de la toile. C'est une magnifique étymologie. En dessous de la toile et en dessous d'une toile, vous le savez, il y a les trames premières. Les trames premières qui nous relient, à ce qui nous importe. C'est en étant relié à ce qui nous importe qu'on essaye de progresser d'une manière ou d'une autre.
D'où l'importance du sujet humain.
Fondamental et de ses transformations.
Oui. Eh bien, merci.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Alors maintenant, si vous voulez, vous avez la parole pour poser des questions à Pascal Chabot. N'ayez pas peur.
Un micro arrive.